France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Chacun d'entre nous pourrait sans doute trouver dans sa mémoire le livre qui lui a ouvert les portes de la lecture. Livre pour enfants, pas nécessairement, mais le plus souvent. Un livre pour enfants, un texte, des illustrations, texte suivi mot à mot, illustration marquante, adoptée en une fraction de seconde, peut-être redécouverte à chaque lecture. Il est des livres fondateurs, des livres écrits pour un enfant pas encore né, des livres légers, des livres plus graves, et les enfants ont sans doute besoin, alternativement, de l'évocation d'un monde doux, paisible, idyllique, et de celle de la réalité. Le 5 mars 1993, Ruth Segassi recevait Claude Ponty dans Carousel.
Carousel, le magazine des livres et des spectacles pour la jeunesse. Bonjour, un carousel en forme d'entretien aujourd'hui avec un de ces rares personnages qui sont à la fois illustrateurs et auteurs de textes. Ils sont peu nombreux surtout à réussir aussi bien leur métier, leur travail. Vous vous souvenez que je vous avais déjà parlé de l'arbre sans fin. Eh bien aujourd'hui, en chair, en os et en personne à côté de moi, Claude Ponty pour parler de l'ensemble de son œuvre. Claude Ponty, bonjour. Vous n'êtes pas avant tout un auteur illustrateur pour la jeunesse. Vous êtes avant tout, je crois, un illustrateur, en tout cas un dessinateur, dans la presse pour adultes.
Depuis quelque temps, je fais beaucoup plus. Enfin, je passe beaucoup plus de temps à faire des livres pour enfants qu'à travailler pour des journaux.
Ah oui, vous avez renversé la tendance.
Oui. Parce que, bon, peut-être que la tendance était un peu comme ça, mais surtout parce que ça me plaît énormément et que j'ai jamais trouvé autant de satisfaction à faire ce que je faisais quand je fais des livres pour enfants. D'ailleurs, auparavant, je faisais également de la peinture, de la gravure, des choses comme ça, il y a à peu près une dizaine d'années, chose que j'ai arrêtée petit à petit, un peu sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, quand des gens qui me connaissent depuis très longtemps me disent « Mais pourquoi tu peins plus ?» ou ben, je sais pas, je m'en suis pas aperçu.
Je peignais.
Non, je me suis pas aperçu que je m'étais arrêté, et tout simplement parce que j'ai jamais trouvé un endroit où tout allait aussi bien, enfin, du point de vue personnel. C'est-à-dire, je pouvais trouver autant de plaisir, de satisfaction à faire les livres et à travailler pour des enfants en particulier.
C'est curieux comme évolution de passer de l'image au texte et à l'écriture.
Ben, pas vraiment. D'abord parce que je suis passé au livre pour enfants par la méthode éprouvée des contes de fées, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé avec un enfant à naître, et le premier et le seul d'ailleurs.
Ça, c'était vraiment un conte de fées.
c'est ce que j'appelle le conte de fées. Et je me suis demandé ce que je pouvais lui faire comme cadeau de naissance. Et donc, après avoir fait très rapidement le tour de mes capacités, j'ai décidé de lui faire un livre, parce que dessiner, c'était ce que je faisais de mieux.
C'était avant sa naissance?
C'était, oui, quelques mois avant sa naissance. Et j'ai préparé quelques pages du livre qui est devenu l'album d'Adèle.
Chez Gallimard.
À l'occasion d'une visite chez Gallimard, je l'ai montré à Geneviève Brissac, qui venait d'entrer chez Gallimard et qui est éditrice chez eux et actuellement à l'École des loisirs. Et elle m'a dit, mais je le veux absolument, je veux le faire. Et moi, j'avais travaillé...
Vous avez dit, non, c'est pour ma fille.
Non, pas vraiment, mais... C'est-à-dire que quelques temps auparavant, j'avais travaillé comme directeur artistique à l'Imagerie d'Épinal et j'avais fait donc des livres avec d'autres.
À l'Imagerie d'Épinal?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben c'est une imagerie très ancienne qui a à Épinal dans les Vosges et qui était le fabricant, qui est toujours le fabricant depuis des siècles, des fameuses images
d'Épinal. C'est
les
images d'Épinal,
oui. Oui.
Vous en avez été directeur artistique ?
Oui, pendant quelques années.
Alors là, l'auditeur moyen, immédiatement, se méprend totalement sur le style de vos dessins et il vous voit...
Ça n'a absolument rien à voir. J'en ai été le directeur artistique à l'époque. J'ai réédité des livres qu'on ne trouvait plus. J'ai mis en livre des images qu'on ne trouvait plus. Et j'ai dirigé une collection où Tardy a fait un livre, où Fred a fait un livre. Et puis, bon, ça s'est arrêté après. Ça, c'était juste pour dire que quand j'ai fait le premier livre... Je savais exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est un livre très grand, très du point de vue des éditeurs, des libraires, des machines et des clichés qui avaient à l'époque sur la taille des livres pour enfants. Donc moi, comme je faisais un livre en deux exemplaires, un pour ma fille et un en archive pour qu'elle le retrouve plus tard après l'avoir complètement bousillé. je m'étais pas du tout préoccupé de ça et j'avais juste voulu faire un premier livre, un livre, en gros, un livre fondateur, quelque chose qui permette à un enfant d'entrer à la fois dans le monde, dans le monde des livres et dans le monde de la lecture. Donc ce livre a plu, on l'a fait et entre-temps ma fille est née, elle s'appelait Adèle et comme chez l'éditeur on parlait tout le temps du livre en disant le livre d'Adèle ou l'album d'Adèle ou des choses comme ça parce qu'on n'avait pas trouvé de nom et qu'on n'en cherchait pas, quand la question s'est posée, il s'est appelé l'album d'Adèle.
Qu'est-ce que c'était ce livre fondateur? Qu'est-ce qu'il fallait pour entrer dans le monde et dans le monde des livres?
Ben, je sais pas si c'est ce qu'il fallait, mais en tout cas, c'est ce que je pensais qu'il fallait.
C'est quand même un petit peu différent. Je vous demandais une réponse très subjective, là.
Et c'était un livre qui avait résulté d'une petite expérience que j'avais faite, sans y prêter attention, 2 ans auparavant, avec une nièce qui avait 3 ans à l'époque et qui avait feuilleté un magazine qu'il y avait à la maison, dans lequel il y avait une publicité, je crois, pour IBM, sur une double page, sur laquelle il y avait tout un tas de petits objets photographiés qui avaient été faits en pâte à modeler ou en plâtre et peints, et sous lesquels il y avait des noms. Et elle avait passé beaucoup de temps à repérer les objets, à leur donner, ou à leur chercher leur nom, ou à me les faire lire, à s'en souvenir. Et après, on s'était amusé très longtemps à mélanger les objets, à leur faire des choses qui n'étaient pas prévues par le concepteur de la publicité. Donc moi, je suis parti de ce genre d'idée. J'ai commencé le livre par le milieu, en faisant une grande double page avec tout un tas d'objets, de petits personnages, de la vie courante, de ce qui pouvait entourer un enfant très très petit. À les dessiner et à les mettre en ordre sur des lignes parallèles, horizontales. Et ensuite, j'ai décliné le livre soit vers le début, soit vers la fin. Vers le début, en diminuant le nombre des lignes et en me servant des lignes, soit pour y raconter des toutes petites histoires, soit pour rien y raconter du tout, jusqu'à arriver au début du livre, et en déclinant l'autre partie, en mélangeant les personnages, en changeant les têtes, en mettant des objets à la place des têtes, en les grandissant, les rapetissant, en leur faisant faire des tas de choses, mais extrêmement petites, extrêmement succinctes, c'est-à-dire des vraiment des embryons de début d'histoire, ou de vaguement quelque chose. Et ça, dans mon esprit, ça servait d'une part, puisque je prenais un livre assez grand à noyer un peu l'enfant dans le livre, c'est-à-dire que ses yeux puissent pas en sortir s'il se mettait en face ou s'il se mettait à quatre pattes dessus ou dessous, et puis à le faire circuler dans le livre en repérant des choses et des objets, ce qui était un pré-avant apprentissage de la lecture, mais de la circulation dans les livres, de la familiarisation avec les livres, et surtout... Peu approfondi du point de vue psychologique ou importance des rapports psychologiques entre les objets, parce que c'est pas du tout l'âge où ces choses-là les concernent. Par contre, ils sont très capables de manipuler des petits concepts et de les faire circuler entre eux très très bien. Et c'est un livre que je destinais plutôt à 3 ans, le temps de le faire, ma fille avait 18 mois, je crois,
quand elle 18
mois. Oui, quand elle l'a eu. Et je sais qu'il y a des enfants qui l'ont maintenant à 1 an dans les crèches.
Vous êtes quand même assez étonnant, Claude Ponty. Je vous ai posé une question qui était comment on passe de l'image au texte. C'est très facile, dites-vous. Et vous vous mettez à raconter une histoire longue, riche, formidable, dans laquelle on ne voit pas du tout comment vous êtes passé de l'image au texte, mais il y a déjà une histoire, bravo.
Mais si, parce que d'abord, les images racontent toutes des histoires, et si on juxtapose des images, elles racontent encore plus d'histoires. Et ensuite, c'était un premier livre, et j'ai fait un livre suivant qui avait le même format pour un enfant un tout petit peu plus grand, où là, j'ai simplement raconté, et toujours sans texte, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le premier, il n'y avait pas de texte du tout. Dans le deuxième, une histoire, cette fois-ci, extrêmement linéaire, mais avec énormément d'embranchements dans chaque page et beaucoup de détails pour que les enfants puissent s'y perdre, s'y retrouver et échanger. Mais quand même, une histoire linéaire du début à la fin du livre. Toujours sans texte. Et la troisième étape, c'était un livre où il y avait une histoire avec du texte.
Et justement, Adèle commençait à apprendre à lire à cette époque-là ou pas?
J'ai tout le temps suivi à peu près l'évolution en âge de ma fille pour lui faire des livres. C'est un peu difficile parce qu'on se décale toujours avec le temps de les faire, le temps de les imprimer, mais j'ai à peu près réussi à suivre jusqu'à présent. Et elle a 7 ans et je fais des livres qui sont plutôt des contes aboutis maintenant. Quoique je me suis remis à faire des livres pour tout petit parce que ça me manque et que j'aime beaucoup ça.
Je trouve qu'on a déjà là un bon résumé de qui vous êtes, Claude Ponty. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes complètement dans l'évolution. On a le sentiment chaque fois que vos livres parlent d'un mouvement dans le temps. Ils parlent d'une trajectoire, d'un itinéraire. Il y a de la marche, il y a du temps qui s'écoule dans chaque livre, à l'intérieur de chaque livre. Et puis, d'un livre à l'autre, il y a aussi de la marche, du temps qui s'écoule. Mais, comme vous l'avez fait vous-même allègrement et joyeusement, on peut commencer par le milieu, mélanger, secouer, et puis il y a toujours des itinéraires quand même. C'est-à-dire que c'est pas forcément linéaire de A jusqu'à B. Il y a des chemins de traverse.
Ouais, jamais,
il y a des...
oui. Ouais. Oui, ben déjà, pour ce qui est de l'évolution, ça me paraît assez difficile.
Vous n'êtes pas darwinien, on va dire.
Pas dans ce sens-là, pas vraiment. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça me paraît assez difficile de travailler pour des enfants, en particulier tout petits, sans prendre en compte ce qui est quand même l'essentiel d'eux-mêmes, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de changer, de grandir. Et le premier gag qu'on a avec des enfants tout petits, quand c'est les siens propres, c'est qu'on passe son temps à se fixer sur une image qu'on se fait d'eux et à s'apercevoir immédiatement que non, ils sont pas comme ça parce que le temps qu'on s'habitue à ce qu'ils étaient, ils sont devenus autre chose. Donc l'évolution en elle-même des enfants, ça me paraît une évidence. Donc en parler de toutes ces choses qui vont autour... ça me paraît très important. Puis en même temps, c'est sûr que si on parle que de ça, c'est assez casse-pied. Donc il faut pouvoir s'évader en permanence, mais surtout y revenir. C'est-à-dire faire des boucles, se ménager des espaces, pouvoir revenir et s'évader en permanence, changer. Tout ce qui est qui fait aussi partie du comportement des enfants qui restent pas 2 heures comme des adultes sur quelque chose, mais qui vont, qui viennent, mais qui perdent jamais. Si on regarde un enfant assez petit jouer, on voit très bien qu'il peut avoir ce qu'on pourrait dire un jeu principal, et que tout d'un coup il l'abandonne, il fait autre chose, mais il l'a pas perdu. Il revient, s'il repasse toc, il le reprend, il continue. Ce qui fait que c'est très difficile de dire à un enfant assez petit, voilà, tu te laves les dents et tu te couches, parce que lui, il va avoir 15 000 choses à faire entre le moment où il se lève et le moment où il se couche.
Alors reprenons donc le fil d'Adèle. Après l'album, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu progressivement.
L'album a plutôt assez bien marché, ce qui fait que j'ai eu très envie de continuer, en plus du fait que ça me plaisait énormément, donc j'ai continué. Et puis voilà, je sais pas.
Toujours pour Adèle, toujours autour d'elle. Les premiers albums chez Gallimard, c'était...
Oui, le premier c'était l'album d'Adèle, le deuxième c'était Adèle s'en mêle, le troisième Adèle et l'appel, qui était une aventure dans les bacs à sable de la place des Vosges. Ça reste pas longtemps dans la place des Vosges. Ils s'en vont très vite ailleurs. Et puis après, Adèle disparaît plus ou moins, réapparaît. Ça dépend. Parfois, c'est... Il y en a un qui s'appelle Brouty, qui est assez récent, où elle est à la première page et à la dernière, parce qu'elle fait un rêve et que tout ce qui se passe...
On la voit apparaître de temps en temps. Elle est aussi dans un des Blaise.
Oui, oui. Elle est dans Pétronille.
Dans Pétronille, voilà, dans Pétronille. C'est ça, dans Pétronille.
Oui, parce que je me suis aperçu en ayant des rencontres avec des enfants en maternelle ou en bibliothèque que Ce que j'avais pas prévu, c'est que c'est eux faisaient une identification assez forte à Adèle, qu'ils avaient. C'était quelque chose de plus et d'énorme pour eux qu'Adèle existe vraiment. Et donc, ils avaient, c'était une sorte de fil conducteur en plus pour eux de savoir que cette Adèle réapparaissait de livre en livre, grandissait, avait des activités qui ressemblaient un peu aux leurs, même si elle n'intervenait pas vraiment dans l'histoire. C'est dans Petroni, par exemple, l'héroïne, qui est une petite souris qui a 120 petits et qui a beaucoup de mal.
D'ailleurs, ça s'appelle Petroni et ses 120 petits.
Oui. À un moment, dans un épisode de ses aventures, elle traverse un paysage dans lequel il y a Adèle, qui est une petite fille qui a grandi, qui a une petite robe à fleurs, et qui est dans
qui
une forêt bibliothèque, qui est en train de lire.
Et qui ne la voit pas.
Et qui ne la voit pas, qui ne s'intéresse pas du tout, parce qu'elle a un livre déjà très intéressant dans les mains. C'est des petites circulations comme ça, d'identification annexe, qui sont assez marrantes, mais assez intéressantes et importantes pour les enfants.
Vous avez essayé de faire un autre personnage qu'on retrouve d'une fois sur l'autre, Blaise, le poussin masqué.
Oui, j'ai fait plus qu'essayer.
Je dis comme ça parce que je trouve qu'on a vraiment envie de le lire comme ça. C'est une espèce de poussin farceur.
Oui, c'est dans le premier livre que j'avais fait, j'avais besoin, dans les premières pages où j'avais plusieurs lignes, j'avais une ligne d'un chat et d'un papillon qui, sur l'ensemble des deux pages, avait une petite histoire. J'avais en dessous un tout petit enfant qui faisait des bêtises avec un énorme tube de peinture et qui racontait aussi une histoire un peu plus simple et plus évidente que le chat. Et il me fallait une ligne au-dessus où j'avais qu'une ligne et il n'y avait pas d'histoire, mais des tas de personnages pour que...
Comment ça m'embrouillait dans vos lignes, là.
Bon, j'ai une ligne avec une histoire, au-dessus une ligne avec une autre histoire, un peu plus simple, et au-dessus une ligne avec des personnages sans histoire.
Ah, sans histoire.
Voilà. Et donc, il me fallait des personnages à peu près identiques. C'était juste pour que l'enfant découvre l'intérêt de la ligne et s'y promène. Et il me fallait des personnages relativement identiques et neutres, et les schtroumpfs étaient pris, les nains étaient pas mal pris, et les poussins étaient pas trop pris, donc j'ai pris des poussins, j'en ai différencié.
J'ai pris l'option poussin.
Voilà, quelques-uns par les couleurs, et un peu plus avant dans le bouquin, ces poussins se sont révélés très intéressants parce qu'ils pouvaient faire des tas de bêtises. Et il y en a un qui était un peu le chef et qui était un poussin masqué avec un masque rouge, de petits diables rouges et qui faisait beaucoup plus de bêtises. Et en discutant avec les enfants plus tard, je me suis aperçu que ce poussin était extrêmement important.
Ah oui.
Pour eux. D'une part à cause du masque, d'autre part à cause des bêtises qu'ils pouvaient faire. Donc je me suis mis à faire des petits livres d'histoire de poussins avec le poussin masqué.
Des livres étonnamment poétiques. Rien que les titres, Blaise et la tempétueuse bouchée. La tempétueuse bouchée, c'est un bouchon qui est planté dans le sol et quand on le débouche, ça fait une tornade.
La tempétueuse, oui, c'est une petite bestiole, en fait, avec un énorme bouchon dedans. Et si jamais on enlève le bouchon, elle se dégonfle et ça fait une énorme
tempête. C'est la tempétueuse ?
Tempétueuse.
Ouais. C'est drôle, je l'ai toujours lu, tempétueuse.
Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour que chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Et surtout, il faut absolument que... en particulier les enfants puissent voir ce qu'ils veulent et s'inventer des tas de choses à partir de l'histoire qu'ils ont sous la main.
Revenons d'un mot sur votre dernier chef-d'œuvre, L'Arbre sans fin. Ne riez pas. D'autant qu'il est plutôt plus triste que les autres. Mais enfin, triste,
moi,
c'est pas le mot.
Pas triste,
non, il n'est pas triste. Il parle de choses plus graves, on va dire. Il n'est pas du tout dans les farces, dans les bêtises, dans les blagues. Encore que Petroni n'était pas non plus dans les farces. Petroni était dans les dangers et les joies de l'errance.
Il y avait des dangers dans Petroni, il y avait beaucoup de gags et d'aventures assez drôles. La différence qu'il y a peut-être avec L'Arbre sans fin, c'est que c'est pour des enfants un petit peu plus grands, et j'ai mis plus d'émotions. D'émotions montrées, dites, pas cachées derrière le 72e degré d'un gag. Oui, c'est beaucoup plus émouvant. C'est l'histoire d'une petite bestiole qui vit dans un arbre, qui part à la chasse avec son père. Et l'arbre est un arbre sans fin parce qu'elle est toute petite et qu'on lui a dit que le monde entier c'était l'arbre et qu'il y avait des centaines de milliers de branches, de feuilles, de racines. Et puis quand elle rentre de la chasse, il y a un drame qui est que sa grand-mère est morte et elle est très triste. Elle participe à la cérémonie, je ne vais pas dire d'enterrement parce qu'elle n'est pas enterrée, mais enfin la cérémonie funèbre de la grand-mère.
L'anciennement.
Et elle est tellement triste qu'elle va se réfugier dans son petit coin secret. Elle se transforme en larme, elle tombe au pied de l'arbre et là, elle a plein d'aventures qui sont... des aventures plutôt initiatiques qui vont l'aider à se former, à se transformer et à vaincre les monstres dont elle avait peur.
Et cette petite Hippolène ainsi que les poussins sont à l'école des loisirs puisque vous avez changé de maison d'édition si vous n'avez pas changé d'éditrice.
Je n'ai pas changé d'éditrice. Je suis resté avec la personne qui m'avait fait mon premier livre, Geneviève Brissac, qui est partie à l'école des loisirs. Je suis parti avec elle.
Des va, des vient, des allées, des retours, mais toujours la fidélité. Carousel qui vous était proposé par Ruth Stegassi. Réalisation Pascal Rayet. Mixage Gilles Pézra.
Stegassi recevait Claude Ponty dans Carousel le 5 mars 1993. Réalisation Pascal Rayet.